Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, Marianne Paquette au micro. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M. Démêler le vrai du faux, eh bien, c'est ce qu'a voulu faire Dr. Alexandra Dalu avec son tout dernier livre, Vivre en santé, ces fausses vérités qui nous font mal. C'est publié chez Édito. Peut-être parce qu'il est de plus en plus simple et facile de s'informer, notamment sur Internet. Et pourtant, ces données ne sont pas toujours vérifiées. Et parfois, à la fin, bien, on se retrouve un peu désavantagé, c'est-à-dire qu'on est confronté à de la fausse information et on se retrouve plus désinformé qu'informé. Ce qui peut y avoir de dangereux à quelque part, c'est que ce sont des croyances qui guident nos choix, donc il peut y avoir des risques pour notre santé. On en parlera avec Dr. Alexandra Dalu en deuxième partie d'émission, la joint du côté de la France. Elle tentera de démystifier... ces mythes, ces fausses informations qui nuisent à notre santé. Aussi, eh bien, les dernières semaines au sein de l'actualité québécoise n'ont pas été teintées de nouvelles très, très réjouissantes. Vague de disparition de jeunes filles, de jeunes adolescentes, le procès Jeanne Gomeshi, l'affaire Jutras plus récemment. Ça nous marque, ça nous fait parler, ça ressort soit des opinions que l'on a, des blessures aussi. Il y a beaucoup d'émotivité rattachée à ces nouvelles. Mais aussi, ça ramène au premier plan la question très, très délicate, essentielle, celle du consentement sexuel. Et je trouve que c'est plus important que jamais d'en discuter, de l'aborder de front. Et ce, dans le but de protéger peut-être des gens plus vulnérables, des enfants, des adolescents, des personnes handicapées. Et j'en parle à l'instant avec la sexologue Mao Albarracin. Bonjour Mao, merci d'être là.
Bonjour.
Je le disais, pas réjouissante du tout, ces dernières nouvelles dans l'actualité québécoise, mais en même temps, s'il peut y avoir un volet positif, un avantage, là, je dis bien s'il peut y en avoir un, c'est le fait de ramener ce sujet-là au cœur des chaumières ici et d'en parler sans tabou, de décortiquer le sujet. C'est quelque chose qui, je trouve, dont on parle très peu du consentement sexuel.
Ben, en réalité, ça dépend des milieux où on se trouve. Les milieux féministes, c'est au cœur de tous les discours, énormément de milieux en termes de santé, justement. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap, c'est très, très présent dans les discours. On parle souvent de la rape culture, surtout aux États-Unis. Oui. C'est énormément présent, en fait, la notion de consentement. C'est l'idée que le consentement n'est pas forcément sur la première ligne, en fait. Ça rejoint surtout l'idée que on pense que c'est comme une zone grise et que la ligne du consentement bouge un petit peu de temps en temps. Et je pense que c'est là où le discours est en train de devenir de plus en plus, c'est qu'on revient sur cette idée que le consentement est une espèce de zone grise.
Ouais. Et on va tenter de mettre un peu plus de lumière dans cette zone grise-là aujourd'hui. On y arrive, en tout cas, du moins, on va tenter. Je ne sais pas si on va arriver en 15 minutes à vraiment tout mettre les balises du consentement sexuel. C'est quoi, d'abord, le consentement sexuel?
Le consentement sexuel, c'est le fait d'être capable d'accepter quelque chose, en ayant toutes les informations, mm-hmm. en étant capable de les comprendre et en ayant les contextes. Donc, c'est aussi, ça parle... des conséquences de nos actions, mais dans quelle mesure on va faire les actions. C'est aussi le fait que le consentement, ce n'est pas un seul point à un moment donné. On mm-hmm. peut dire oui maintenant et dire non plus tard. Et donc, le consentement peut être retiré. C'est aussi le fait qu'on devrait être capable de donner son consentement sans avoir de pression.
Donc, de menaces.
De menaces, de n'importe quelle relation de pouvoir. Il n'y a pas de consentement à mesure qu'il y a une relation de pouvoir. On ne parle pas de BDSM ici, ce n'est pas la question, mais plutôt en sens que je suis en position vulnérable face à quelqu'un. Donc, je n'ai pas réellement consenti à la relation. Et, donc, et c'est là où il n'y a pas de zone grise. C'est qu'on on pense que ben, peut-être que en fait elle a eu donné un consentement, mais en fait maintenant elle est plus sûre de ce qu'elle voulait faire. S'il y avait une relation de pouvoir à ce moment-là, elle a peut-être dit oui, mais c'était pas un réel consentement parce qu'elle n'était pas réellement capable de dire non, parce que les conséquences de dire non étaient peut-être trop graves.
Par relation de pouvoir, évidemment, rapidement, on pense à un adulte et un enfant, mais on pourrait penser aussi à un patron, un employé, un enseignant, un élève.
Par exemple, il y a énormément de... En fait, il y a énormément de relations de pouvoir dans le monde. On peut penser à n'importe quelle intersection d'identité où une identité est plus marginalisée qu'une autre. On peut penser à une relation de pouvoir. C'est sûr qu'on en a certaines qui sont plus évidentes, donc les parents. On peut penser à tuteurs et personnes sous tutelle. Mais c'est pareil, un médecin, par exemple. Un médecin est en relation de pouvoir, un professeur est en relation de pouvoir. N'importe qui avec plus d'argent qu'une autre personne qui lui offre une possibilité d'avoir un peu plus d'argent. Après, je ne parle pas de prostitution. Je ne rentre pas dans ce discours-là. Mm-hmm. J'enlève pas la possibilité d'avoir un consentement en termes de prostitution, mais une personne qui a un pouvoir sur nous, elle met un peu en cause la possibilité de donner un consentement.
Vous avez parlé aussi de la compréhension du contexte. Mm-hmm. Comment s'assurer qu'il y a compréhension du contexte?
S'assurer qu'il y a compréhension. Je ne pense pas qu'on puisse jamais s'assurer qu'il y a compréhension. Je pense qu'on peut faire de notre mieux, on peut poser des questions. Et je pense qu'il y a toujours possibilité d'y avoir compréhension.
Ouais.
La question, c'est combien de temps ça va prendre pour arriver à compréhension? Combien de discussions ça va prendre? Est-ce qu'on a vraiment passé par tous les points? Est-ce qu'on a donné la possibilité à cette personne de comprendre? Parce que ça se peut que souvent, on considère que bah, elle ne peut pas comprendre. Donc, on va tout de suite enlever la possibilité de répondre à une question aussi simple que « avais-tu envie ?» Mm-hmm. Pour nous, ça semble simple. Peut-être que pour cette personne, c'était moins simple à ce moment-là. Mais poser suffisamment de questions, on va arriver à une réponse. Donc, je pense que ce n'est pas une question tant de s'assurer qu'il y a eu compréhension, mais d'essayer, d'essayer, puis de recommencer à chaque fois. Et au bout d'un moment, si la réponse est toujours fixe, on va arriver à une compréhension.
Vous avez dit quelque chose d'important, je trouve. Avais-tu envie, le désir, le plaisir aussi? Mais il y a des bonnes raisons de consentir à une relation sexuelle, puis il y a des mauvaises raisons. Dans les bonnes raisons, j'imagine qu'il y a le désir sexuel. Ça peut en être une?
Ben, en fait, c'est là où je ne vais pas forcément être d'accord. C'est pour ça qu'il fallait vraiment poser la notion de consentement. C'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de mauvaise raison de consentir. Mm-hmm. Si on considère que c'était une mauvaise raison en sens que bah, j'ai dit oui pour ne pas me faire taper dessus, par exemple.
Ouais.
Dans ce cas, ce n'est pas un consentement. C'est parce qu'il y avait une oppression quelque part qui fait que le fait de dire non aurait eu des conséquences négatives. Donc, je ne considère pas, par exemple, que si une personne pour... En fait, dans la vie de tous les jours, on dit tous oui à des choses pour X raisons. Parfois, dans un mariage, on va parler du cas le plus typique, un mariage entre un homme et une femme qui ont des relations sexuelles. On ne peut pas être plus typique que ça. Je ne parle pas de normes, mais bien de typicité d'une relation. Même dans ce genre de relation-là, ça se peut qu'aujourd'hui, j'ai dit oui à une relation sexuelle parce que je sais que ça fait longtemps et que je me dis que peut-être en ce moment, je devrais avoir une relation sexuelle, mais je n'en avais pas plus envie que ça physiquement pour moi. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là, c'était une mauvaise raison de dire oui? Est-ce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison du moment que ce n'est pas lié à une pression quelque part et surtout du moment qu'on est à l'aise avec les conséquences de notre acte? C'est aussi pour ça que je ne voulais pas forcément mettre la prostitution dans le continuum du consentement parce que pour moi, si on est capable de consentir à une relation sexuelle, peu importe nos raisons de consentir, peut-être que j'ai un besoin d'argent en ce moment, ou peut-être que j'ai envie d'explorer quelque chose de nouveau, peut-être que la prostitution m'excite. Il y a plein de raisons possibles pour entrer là-dedans. C'est pas là où se trouve le problème de consentement. C'est si plutôt la personne est forcée à ça, par exemple. Si demain, son choix, c'est soit j'ai une relation avec cette personne, soit me met dehors, par exemple.
Oui.
Là, on peut penser que le consentement est un petit peu mis en jeu, par exemple.
Vous avez dit tout à l'heure que l'on peut consentir à une relation sexuelle, mais après, se retirer, changer d'avis. Et ça, c'est une notion parfois qui n'est pas nécessairement comprise. On peut dire oui une journée, non le lendemain. C'est important de le rappeler, il me semble.
Même au cours de la relation, ça se peut qu'il y ait un non, par exemple. Mais justement, c'est un peu ça où on arrivait avec Jian Jigomeshi. C'était beaucoup autour de ça. C'est qu'elles avaient dit oui au bout d'un moment. À un moment donné, elles avaient dit oui, mais elles n'avaient pas dit oui à tout. Et ça se peut qu'au moment, surtout dans des relations BDSM, ça se peut qu'on retire le consentement
pendant la relation.
Pendant la relation, et ça devrait être respecté. Et le fait qu'on parle pas de cet aspect spécifique-là, ça fait en sorte que beaucoup de gens considèrent que rentrer à la maison avec quelqu'un, c'est dire oui. Prendre un verre avec quelqu'un, c'est dire oui. Même beaucoup de femmes considèrent que si elles ont dit oui à quelque chose, bah, elles leur doivent un peu une relation sexuelle vu qu'elles ont dit oui à un moment donné. Donc, si on accepte un verre au bar, je lui dois quelque chose au final. Si je commence la relation, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « tu peux pas me... t'es une agace ». La notion d'agacer, genre... Est-ce que ça implique que parce que j'avais envie de t'embrasser ou j'avais envie de danser avec toi à ce moment-là, est-ce que ça implique forcément qu'il y avait une relation sexuelle derrière? Est-ce que je te la devais? Personne ne doit rien à personne. Donc, cette notion de retirer le consentement, je pense, devrait être beaucoup plus mise de l'avant, en effet.
Mais est-ce qu'on devrait le nommer? Est-ce qu'on devrait le dire assez rapidement, que ce soit entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes, c'est-à-dire si l'on partage un moment d'intimité, sans que ça soit une relation sexuelle, danser, par exemple, très bon exemple, est-ce qu'on devrait déjà le dire, je dis oui à ça, mais ne t'attends pas à autre chose?
Mais je pense que si on est capable, sur le moment, d'être suffisamment agentif et subjectif pour faire voix à ce qu'on ressent au moment, c'est toujours bon de dire ce qu'on ressent. Mais je pense pas que c'est que ça devrait être la responsabilité de la personne qui rentre dans quelque chose de tout de suite mettre la limite sur une relation sexuelle alors que cette personne-là, elle n'est pas forcément... Elle ne le sait peut-être même pas. Mm-hmm. Ça se peut qu'à ce moment-là, j'avais envie et puis la soirée a passé et puis j'ai plus envie. On ne le sait jamais au final. On ne sait jamais où est-ce que ça va mener. Parfois, on le sait, parfois, on ne le sait pas. Et de mettre cette responsabilité-là sur les potentiels, sur les personnes qui peuvent être des victimes, c'est placer trop d'importance sur leur responsabilité par rapport à un acte qui finalement n'était pas leur responsabilité. En sens que, pas la relation sexuelle, mais une agression, par exemple.
Oui.
C'est jamais la faute de la victime. En aucun cas, il faut toujours vraiment rappeler ça, c'est jamais la faute de la victime. Donc, c'est pas parce que cette personne n'a pas dit qu'elle voulait pas faire ça à ce moment-là que c'est forcément sa faute.
Oui.
Il faut vraiment mettre beaucoup cette limite que... Même si la personne n'a pas dit, même si la personne n'a pas mis le petit cutex maintenant qu'on dit « Oh, il y a un cutex », et si on le met dans le verre, on peut voir s'il y a du GHB, même si cette personne n'est pas venue accompagner, même si cette personne n'a pas checké son verre, ce n'est pas sa faute.
Oui. Si elle porte un décolleté, même s'il il danse de façon lascive, etc. Là. Parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais c'est important aussi d'inclure les garçons. Ça peut arriver à tout le monde. L'âge légal au Québec, 18 ans. En bas de 18 ans, est-ce qu'un adolescent ou un jeune adulte peut donner son consentement sexuel? Est-ce que c'est valable?
Il y a des espèces de normes. Dans le sens qu'à partir de 14 ans, on peut avoir une relation avec quelqu'un qui a 2 ans de plus que nous, mais pas plus. À partir de 16 ans, il y a la braquette pareille, 2 ans et plus, etc.
Ah oui, okay.
Donc, il y a quand même des réglementations qu'on peut toujours regarder sur les sites Internet du gouvernement du Québec. Mais la question, c'est est-ce que la personne avait le développement suffisant pour comprendre? Donc, l'éducation sexuelle, ça devrait se faire bien avant 14 ans, bien avant ces âges-là. On devrait parler aux enfants de qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que le plaisir, qu'est-ce que c'est que le plaisir seul et à deux, parce que le plaisir seul, est-ce qu'on devrait vraiment demander à une personne si elle a besoin d'un consentement pour faire du plaisir toute seule? Est-ce qu'un enfant n'aurait pas le droit d'avoir du plaisir tout seul, même si c'est sexuel? C'est-à-dire... Donc, c'est des sujets qu'il faut vraiment de plus en plus... parler de plus en plus jeune, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que plus on en parle jeune, plus les jeunes vont avoir tendance à le faire, ce qui n'est pas supporté par les données, en fait. On ne remarque pas ça, en fait. D'ailleurs, on remarque souvent que moins on en parle, plus il y a des conséquences négatives associées à la sexualité, comme des grossesses non désirées, des ITSS. On a des taux énormes de gonorrhée au Québec. Donc, c'est pas... La question du consentement, c'est important, mais c'est peut-être... On met trop de poids sur « sont-ils capables de ?» plutôt que « est-ce qu'ils ont compris ce que ça impliquait ?»
Et on l'aborde comment, que ce soit avec notre adolescent ou encore vous travaillez auprès des clientèles de personnes qui vivent en situation de handicap davantage physique. Est-ce qu'il y a une façon différente de l'aborder? On le fait de la même façon?
Je ne pourrais pas faire de généralisation sur toutes les personnes en situation parce qu'évidemment, et de toute façon, les handicaps mentaux prennent diverses formes. Et c'est même ouais. Dans une seule forme, c'est un continuum. On ne peut pas généraliser. Il y a beaucoup de gens qui parlent en termes d'âge mental. Donc, il y a des gens qui ont un âge mental plus bas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout le monde peut comprendre. C'est une question d'y mettre l'effort. Donc... Si on a une personne sous notre tutelle, donc un enfant, ou notre enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre, qui exprime un désir, par exemple, est-ce qu'on peut en discuter avec elle? Combien de temps ça va prendre? C'est pas tellement important, en fait. C'est plus, est-ce qu'on a posé les questions? Est-ce que la personne a été capable d'y répondre? Est-ce qu'elle lui a offert des connaissances? Est-ce qu'elle a posé des questions? Est-ce qu'on a vu avec elle toutes les conséquences? Est-ce qu'elle les a comprises? Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut réellement dire que cette personne n'est pas capable de consentir à une relation, ne serait-ce qu'avec une personne qui est dans le même spectre qu'elle? Il y a beaucoup de cas de couples couples qui sont mariés, qui ont des enfants, qui vivent ensemble, qui sont très fonctionnels. Est-ce qu'on devrait dire, non, t'es un handicap mental, t'es pas capable de consentir? Même une personne qui n'est pas en situation de handicap mental, le consentement, on n'est pas toujours tout le temps capable de consentir. Des fois, on est plus vulnérable psychologiquement, physiquement. Donc... Ouais. C'est pas... Je pense que ce genre de compréhension, ça s'applique à tout le monde. Et je pense qu'il faut prendre tout le monde au cas par cas, handicap mental ou non.
Quelles sont les ressources pour les gens qui ont vécu un abus sexuel, que ce soit les personnes qui vivent en situation de handicap ou encore un adolescent, un enfant dans notre entourage, vers qui on peut se tourner? Il faut consulter, il faut agir le plus rapidement possible.
Déjà, pour venir en aide à une victime, il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a écouter, sans dire quoi que ce soit, vraiment juste écouter ce qu'elle a à dire. C'est croire à ce que dit la personne. C'est une des étapes les plus importantes. La plupart du temps, on met beaucoup en cause ce que la personne dit. C'est recevoir ce qu'elle dit. Encourager les forces de la victime quand ça s'est passé. Donc, pas dire, t'aurais dû faire ça. C'est plutôt dire, c'est bien que tu es venu, sois venu m'en parler. Le déculpabiliser, c'est pas ta faute, c'est jamais ta faute. Valider les émotions, donc c'est normal de se sentir comme on sent en ce moment, il n'y a pas de réaction normale, et c'est l'accompagner dans les diverses ressources. Donc par exemple, on a écoute, information et référence, des lignes d'accès sans fil, il y a des numéros, je peux vous les donner à la fin. De toute façon, il y a toujours la police, même si on n'est pas toujours ouvert à appeler la police, mais on peut quand même le faire. Il y a le centre de santé et de services sociaux, les CSSS, dans le fond. Eux, ils sont toujours quelqu'un qui sera prêt à vous écouter. Les regroupements québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles à caractère sexuel, le nom c'est Hercus Calax. Donc, voilà. Ouais. Les réseaux des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, les CAVAX. Il y a plusieurs sites web comme lesagressionssexuelles.gouv.qc. Le ministère de la Santé, des services sociaux, et puis il y a tout...
Et on dénonce, parce que ça a été la question qui est revenue souvent, avoir su, j'aurais dénoncé, ou non, j'aurais plutôt protégé. Et elle est là, la grande question, c'est important de dénoncer, de manifester que l'on est au courant qu'un enfant, un adolescent, une personne en situation de handicap est victime d'abus sexuels.
C'est une question un peu plus en termes avec l'autonomie et la gentillité de la personne qui a été agressée en tant que telle et surtout respecter ses désirs à elle, je pense. Donc la première chose, c'est d'aller lui en parler à elle. Si c'est des enfants, évidemment, la loi nous force à aller en parler à quelqu'un. Mais si c'est pas des enfants, je pense que c'est important de savoir ce que la personne est à l'aise de faire. Est-ce qu'elle a envie d'entamer ce genre de procédure? Parce que parfois, ça se peut que ce soit un partenaire connu. Donc, est-ce que tu as envie de mettre cette personne-là dans le processus? C'est vraiment avec la personne qui a vécu une agression sexuelle d'en parler avec.
Mahoua Albarassin, je savais qu'on n'aurait pas le temps de tout aborder, mais déjà, c'était une conversation très éclairante. Merci beaucoup pour la participation à l'émission. On se reparlera très certainement. Merci, Mahoua.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vuzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Docteur Alexandra Dalu, bonjour.
Bonjour, Marianne.
On vous joint du côté de Paris. Il fait déjà nuit là-bas, probablement beaucoup moins froid qu'à Montréal.
Exactement, c'est ce qu'on se disait.
Alexandra Dalu, vous venez de signer ce livre « Vivre en santé, ces fausses vérités qui nous font du mal ». C'est publié chez Édito. Vous attaquez à des mythes par l'entremise de quatre grands pôles, à savoir l'alimentation, le sommeil, le sport et tout ce qui est hormones, génétiques, bactéries également. Mais votre but dans tout ça, c'est la prévention en matière de santé globale. C'est ça que vous voulez mettre de l'avant.
Exactement, c'est totalement ça. Je pense que la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé est une belle définition parce qu'elle prend en considération que la santé, c'est pas seulement les maladies, c'est également un bien-être mental et physique. Et quand on discute de tout ce qui est hormones, sport, qualité du sommeil et bien sûr ce qu'on peut choisir en alimentation, on peut indirectement avoir une bonne santé globale, exactement. Mmh.
C'est pour ça que vous avez choisi ces quatre grands pôles, parce que, à votre sens, ce sont les quatre axes les principaux, peut-être?
Exactement. Il y a une synergie, il y a une symbiose. C'est sûr que si, d'un point de vue hormonal, on a un statut qui va être intéressant, on va se sentir en meilleure forme, on va avoir plus de muscles, mais aussi, si on fait plus de sport, on va avoir plus de muscles, bien sûr, tout en finesse, hein, on prépare pas les Jeux Olympiques, hein, mais si on a un petit sport régulier, ça nous permet d'avoir un bon statut hormonal qui nous permet de bien vieillir aussi, et ça, à n'importe quel âge, en fait.
Oui. Vous avez aussi voulu paraître ce livre-là, écrire ce livre-là, parce qu'il y a des dangers aux fausses croyances que l'on entretient, disons, à cette mauvaise information qui circule abondamment, surtout de nos jours, là, avec Internet qui est tellement accessible.
Alors, c'est vrai qu'Internet, c'est super parce que c'est un savoir partagé. Et c'est vrai que quand on écrit un livre, on a envie de transmettre ce savoir. Donc, on ne peut qu'être pour Internet. Après, c'est vrai qu'il y a des petites blagues là qui circulent actuellement, comme quoi Dr Google ne peut pas remplacer votre médecin. Parce qu'en fait, quand on étudie la médecine, on a aussi des données qui font que ces connaissances vont être adaptées à la personne. Donc quand vous avez des symptômes, ils peuvent correspondre à différentes maladies ou le patient, simplement en regardant Internet, ne peut pas avoir cette faculté de conclure sur cette maladie. Et souvent, ça demande d'avoir une prise de sang, une imagerie, un raisonnement, en fait. Hein. C'est plus qu'une devinette. Donc, finalement, il faut toujours faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on est contre rien. Ce serait dommage d'être contre le progrès. En tout cas, moi, je suis pour le progrès et pour le savoir partager, encore une fois. Simplement, peut-être que le patient, quand il se plaint de quelque chose, pourquoi pas, il peut regarder sur Internet s'il le souhaite. Mais avant tout, il doit faire confiance à son médecin, à la science, qui est vraiment très évolutive maintenant et qui va lui apporter quelque chose d'intéressant, une réponse, une solution. En tous les cas, on lui souhaite.
Oui, mais c'est difficile pour le grand public de savoir filtrer son information, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours un petit médecin dans notre poche pour valider ce que l'on lit.
Oui, c'est pour ça ça que j'espère qu'on sera là le plus longtemps possible et que même si les robots nous aident à aller mieux, il faut quand même un chirurgien pour pouvoir vraiment conclure cette chirurgie. On le voit, c'est un bon exemple, c'est une métaphore, mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai connu à la faculté les stages avec les robots qui commencent à être là avec les nouvelles caméras, mais il y a quand même quelqu'un qui dirige tout ça. C'est pareil pour la médecine. On peut avoir plein de livres, avoir plein de documents, même mon livre en fait. Ça va vous donner une indication. Et après, évidemment, il y a quelqu'un qui va raisonner, qui a été formé pour ça et qui, lui, est capable de faire justement le tri dont vous parlez, Marianne.
Oui.
Parce qu'en effet, dans notre cerveau, à cause de ces 10 années de médecine, de stage, de formation, et puis de contact aussi avec les gens, d'expérience, hein, bien sûr, puisque nous voyons des gens toute la journée avec différentes pathologies, nous sommes capables, au final, d'avoir ce tri pour pouvoir conclure et pour trouver une solution.
Dans votre livre « Vivre en santé », Alexandra Dalu, c'est le chapitre « Hormones génétiques et bactéries » qui m'a le plus fascinée parce que je trouve que l'on en parle très peu.
Merci beaucoup. Alors, peut-être aussi parce que c'est un petit peu nouveau, c'est-à-dire que je suis la génération où on a commencé à avoir des cours sur la génétique, puisque maintenant on connaît le génome, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les bactéries, c'est vrai que ça faisait un peu science-fiction, mais maintenant on sait que par exemple les bactéries que vous avez dans votre flore intestinale vont parler à votre cerveau, vont envoyer des messages nerveux en leur disant voilà, tout se passe bien ou tout se passe pas bien. En fonction de ce que vous mangez, vous pouvez avoir une flore qui va vous donner certains messages. C'est passionnant en effet parce que de nouveaux médicaments vont apparaître d'ici 5 ans qui sont reliés à ces bactéries et qui pourront traiter par exemple l'anxiété ou la dépression. Donc c'est complètement incroyable, mais vrai. Et puis les hormones, c'est aussi passionnant parce que évidemment il y a toujours eu des dérives. Pour autant, grâce à des nouveaux biomarqueurs qu'on peut analyser dans votre sang, on peut savoir si votre statut hormonal est encore jeune, quel que soit votre âge. Il y a des études très intéressantes qui montrent que les personnes seniors qui vont faire du sport, comparées à d'autres personnes seniors à peu près du même gabarit qui ne vont pas faire de sport, vont vieillir moins bien. Donc c'est vraiment dommage et en plus ces études montrent que simplement un petit peu de marche tous les jours, avec un petit peu de musculation par exemple, avec un prof de sport ou un kiné dans la semaine, vont permettre tout simplement à ces personnes de rester indépendantes physiquement et mentalement.
En tout cas, moi j'étais heureuse d'y apprendre que ce ne sont pas que les femmes qui vivent des dérèglements hormonaux. Alexandra Dalu, je rappelle, « Vivre en santé, ces fausses vérités qui nous font du mal », c'est publié chez Édito et on y apprend une foule de choses, à peu près 400 pages qui m'ont fascinée. Merci beaucoup, Dr. Dalu.
Merci à vous, Marianne.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous, nous, demain. D'ici là, portez-vous bien. On parlera avec le psychologue Noël Champagne, lui qui travaille du côté de la Fondation Mira, à savoir l'impact des chiens Mira sur les enfants autistes. Bye-bye.